Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on s'intéresse au sport, à l'éducation et aux boissons toniques. Bon alors, devinette, si on s'intéresse au sport, à l'éducation et aux boissons toniques, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, mais du Tour de France, bien sûr. Du Tour de France, celui qui va avoir lieu le mois prochain, du 3 au 28 juillet environ, et qui verra des cyclistes rallier les villes et les campagnes les plus importantes et les plus riantes de France pour chanter d'une même voix allègre la joie et l'exaltation du corps, l'exaltation de la vie à la campagne et surtout l'exaltation du dopage. Non. On arrête de plaisanter. En fait, ce matin, nous allons parler non pas du Tour de France, mais de l'Alter Tour de France. Dominique Béroul, vous faites partie des initiateurs de cet Alter Tour de France. Pratiquement tout dans ce que j'ai dit est vrai, en fait. Il va vraiment y avoir du sport, il va vraiment y avoir beaucoup de pédagogie, il va être question de dopage tout de même. Mais il y a une petite différence, même s'il y aura également des vélos. Vous allez enfourcher le vôtre de vélo ?
Je crois que moi, j'aurais personnellement pas trop le temps d'enfourcher mon vélo. Sauf ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de repérer certaines des étapes. Mais pendant le Tour de France, je crois qu'on sera très occupés, les organisateurs, à encadrer les différents altercyclistes.
Alors, qui sont ces altercyclistes et qu'est-ce que vous leur proposez exactement ?
Alors, ce qu'on leur propose, c'est deux choses. C'est déjà un petit peu de sport santé. Cet Alter Tour, ça va être un relais cycliste composé de petits relais, de petits circuits de 15 km, donc qui peuvent être parcourus en famille.
15 km par jour ?
Non, oui, enfin, ils peuvent choisir entre 15 km et 120 km s'ils le souhaitent, qui est la taille maximale d'une étape. En tout cas, s'ils font que 15 km, ils sont ensuite pris en charge par un bus qui suit le tour.
Déjà des dopés qui font 120 km.
Alors, on va essayer de ne pas se doper pendant ce tour. Enfin, on en parlera peut-être un petit peu plus précisément tout à l'heure. Ce que je voudrais faire, c'est vous dire de quoi il s'agit pour l'instant. Donc, effectivement, ça va être un ensemble de petits chaînons de 15 km, mais l'ensemble formera une grande boucle de près de 3000 km autour du Massif Central, avec un départ qui va avoir lieu à Sandras, qui est une commune au nord d'Alès. Et ça sera ça le 3 juillet. Donc, on va accueillir les altercyclistes à ce moment-là. Et ensuite, trois semaines plus tard, on se retrouvera le 28 juillet à l'arrivée, au sud de Montpellier. Et pendant cet intervalle de temps de trois semaines, on aura emprunté des voies vertes, on aura traversé des villages de charme, et puis on se sera instruit sur l'agriculture biologique et sur les méfaits du dopage. Puisque en fait, effectivement, il n'y aura pas de compétition dans cette manifestation.
On va pas demander. Exactement, oui. Il y aura des règles différentes pour
oui,
la
tout
compétition.
À fait.
Ils sont des jolies règles. Vous devriez les.
Oui,
les
en fait, bon, il faut savoir que quand on demande à quelqu'un d'aller le plus vite possible sur un endroit, sur l'arrivée, c'est plus facile que lui demander de s'organiser avec ses petits camarades pour faire quelque chose de solidaire. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de faire justement.
C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'on se réunira tous les soirs avant l'étape suivante pour, avec tous les participants, décider qui va prendre quel chaînon, à quel moment, et donc organiser, planifier ce qui nécessite de se connaître et ce qui nécessite ensuite de réaliser de manière solidaire le lendemain l'étape. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit simplement d'aller le plus vite possible sur le lieu d'arrivée.
Et puis en fait, je crois qu'il est prévu que tout le monde gagne.
Alors, peut-être pas, ça dépend, parce que tout le monde gagne si on est capable de transporter un objet symbolique qui sera l'objet relais sur les 3000 km, et donc c'est absolument pas gagné. Peut-être qu'on va tous perdre, il suffit qu'un chaînon manque pour qu'on perde tous, c'est ça la solidarité aussi.
Au-delà du plaisir de faire ce Tour de France en compagnie conviviale, Dominique Béroul, il y a aussi, vous le disiez, tout un aspect éducatif, instructif. Et de fait, les étapes sont organisées pour être des lieux de rencontres, de débats, de discussions.
Exactement. D'une part, les altercyclistes seront accueillis à la ferme tous les soirs ou sur des communes. Mais pendant la journée, c'est-à-dire pendant les périodes chaudes, l'après-midi notamment, et puis le soir, il y aura des conférences, des débats, des documentaires, des expositions sur un certain nombre de thèmes qui ont trait à l'écologie, à l'agrobiologie et, disons, à tout ce qui concerne la biodiversité. Le titre exact de cet Alter Tour, c'est Alter Tour de la biodiversité cultivée pour une planète non dopée.
Un titre long, mais effectivement assez explicite, et dans lequel on trouve les deux thèmes qui sont vraisemblablement les thèmes principaux,
tout
même si, de fait, vous élargissez largement. Les thèmes principaux, c'est effectivement l'agriculture avec tous les sous-thèmes qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire l'agriculture biologique, l'agroécologie, mais également les OGM, également l'agriculture...
L'énergie, le problème de l'eau, enfin, on a en tout une quinzaine de thèmes qui se rapportent à cet altertour. Alors la façon dont on va diffuser l'information, c'est pas seulement en organisant des conférences et des débats toute la journée au moment du passage des altercyclistes, mais c'est aussi grâce à, une bibliothèque itinérante qui sera une sélection, qui transportera une sélection d'ouvrages sur ces différents thèmes, et notamment un recueil qu'on va éditer spécialement à l'occasion de cet altertour, qui va être un recueil de pratiques agroécologiques viables pour montrer que même sur le plan économique, ces pratiques pourraient avantageusement remplacer celles qui sont actuellement en cours l'agriculture industrielle.
Recueil qui est publié pour l'occasion.
Pour l'occasion, tout à fait. Et bon, qui est destiné aux agriculteurs, destiné aux élus qu'on va rencontrer à l'occasion de ce tour. Et troisième chose, pour faire en sorte qu'il reste une trace durable de cette aventure, ça ne sera pas uniquement dans la mémoire des gens qui y ont participé, il y aura un documentaire qui sera tourné par Suzanne Corosi.
C'est déjà commencé ?
Peut-être que ça commence actuellement, oui, c'est ce que j'ai l'impression.
C'est déjà commencé puisque Suzanne est avec nous dans le studio et qu'elle est en train de filmer cet entretien préparatoire à l'altertour.
Et donc, bon, sur ce documentaire, bon, Suzanne pourrait le dire mieux que moi, mais alterneront des images de cyclistes en plein effort dans des paysages fantastiques comme on en a en France. Et puis, également, des interviews de paysans et d'intervenants. Voilà. Faut préciser qu'on va traverser des paysages fantastiques, des régions avec des spécialités culinaires. Oui, alors bon, je vais pas vous faire un dépliant, mais il faut dire qu'il faut admettre qu'on aura peut-être un petit peu de dopage puisqu'on va traverser quand même la vallée du Rhône, la Bourgogne, le Languedoc et puis le Bordelais. Donc ce dopage-là sera sûrement autorisé le soir.
Est-ce que vous avez traversé la région Île-de-France ?
Alors, pas cette année, mais enfin, bon, au cas où, l'année prochaine, on fera une réédition, peut-être traverserons-nous la région Île-de-France.
Annie Poursinoff,
je suis tout à fait demandeuse. J'étais d'ailleurs assez déçue qu'on ne passe pas en Île-de-France cette année.
Mais oui, puisque vous êtes conseillère régionale pour l'Île-de-France et chargée de mission sur l'agriculture biologique dans notre belle région. Mais vous auriez eu des choses à montrer, certainement, les vastes superficies qui sont consacrées aujourd'hui à l'agriculture biologique, 0,63% de la surface agricole utile.
Vous êtes très informée. Donc, on va attendre d'avoir triplé les surfaces, puisque c'est ça ma mission, tripler les surfaces. Donc, peut-être dans 3 ans, on fait l'altertour en Île-de-France, comme ça on montrera qu'on a beaucoup progressé sur ce thème.
Alors, outre votre rôle de pionnière, puisque vous êtes là pour préparer finalement l'arrivée du Tour de France, de l'altertour dans 3 ans, quel est votre lien à cet altertour ? Le plaisir de vous rencontrer ce matin.
Alors, je suis militante anti-OGM, c'est certainement dans ce cadre-là que j'ai rencontré Dominique. Donc quand il a eu cette idée que j'ai trouvée géniale, je me suis dit les verts ne peuvent pas être en dehors de ça, et donc j'ai un petit peu insisté auprès de mes collègues qui au départ ne croyaient pas trop que ça allait prendre de l'ampleur pour dire mais si, c'est un super projet et puis ça correspond vraiment à un état d'esprit tout à fait novateur et ce monde qui change, qui doit devenir plus proche de la terre, justement, où on cherche à recréer des liens entre les consommateurs et les producteurs. Je trouvais que c'était vraiment très symbolique de ce projet que j'ai moi dans ma tête, que je pense mon parti politique a aussi, et donc c'était normal qu'on se retrouve.
De fait, les relais ne manquent pas, Dominique Béroul, puisque, outre les Verts, la Confédération Paysanne aussi s'est intéressée au projet.
Je ne vais pas me livrer à cet exercice de vous citer les 18 organisations qui sont partenaires.
Mais allez-y, par cœur, je vous écoute.
Non, c'est trop. C'est trop difficile parce que je vais forcément en oublier un ou deux. Mais disons que bon, il y a la Fédération nationale d'agriculture biologique, il y a Accueil Paysan qui a été vraiment très moteur dans ce projet puisque ça correspond tout à fait à leur philosophie d'accueillir tout en ayant une activité agricole en parallèle.
Et qui seront évidemment des chevilles ouvrières essentielles.
Oui, je pense qu'il y a au moins le tiers des accueillants qui sont de cette association Accueil Paysan.
Alors, on a prononcé des mots, on ne s'est pas étendu dessus. Peut-être que maintenant, on va commencer à approfondir la question. Jean-Pierre Berland, c'est des retrouvailles pour vous et Terre à Terre. Ça fait un moment qu'on se connaît. On vous avait rencontré au tout début du 21e siècle, souvenez-vous.
Oui.
Vous étiez chercheur à l'INRA et vous étiez déjà extrêmement observateur des OGM. Vous aviez publié un livre, La guerre aux vivants, chez Agon. Et je crois que vous avez été un des premiers véritablement à faire le lien entre cette nouvelle spécialité agronomique, pourrions-nous dire, qui s'appelait les OGM, et tout le système de brevetage du vivant qui était en train de se mettre en place.
Oui, peut-être une remarque préalable. Je pense qu'il ne faudrait pas parler d'OGM. Organisme génétiquement modifié.
Vous avez raison, il faudrait arrêter d'en parler.
Non, 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 mais d'utiliser ce terme, c'est un terme qui a été inventé par Monsanto pour éviter le terme de chimère génétique ou chimère fonctionnelle qui était utilisé par les scientifiques au début des premières manipulations. Et donc, ce n'est pas en utilisant le vocabulaire de Monsanto qu'on peut arriver à penser la réalité. Disons qu'au mieux, un terme simple, ce serait, il faudrait parler de plantes, pesticides, brevetés. Hein, déjà, je pense que ce serait beaucoup plus clair pour beaucoup de gens, parce qu'on ne tombe pas dans ce piège.
En tout cas, on peut parler de plantes tenaces, puisque je rappelais notre rencontre loin, aux confins du XXe et du XXIe siècle, parce que depuis 8 ans se sont passés, depuis l'arrivée, l'introduction des OGM, beaucoup plus de temps. Et de fait, on a pu croire, cette année en particulier, autour du Grenelle, il y a eu un espoir que ces OGM pourraient regagner la case objet d'étude potentiel, mais en tout cas certainement pas objet de culture. Et puis finalement, ils sont toujours là. Ils sont toujours
utilisés. Je vous dis, si on utilise le terme plante pesticide breveté, en effet, c'est la poursuite du système pesticide. C'est le système pesticide dans lequel nous sommes entrés il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années. Ça a commencé ce système-là avec la Première Guerre mondiale, puisque toute la chimie des pesticides est originaire de la chimie des gaz de combat au cours de la Première Guerre mondiale. Et donc, on est dans la poursuite de ce système qui est un système littéralement, puisqu'on a parlé de dopage, de dopage et de dépendance, d'addiction, puisqu'on a introduit un pesticide et aussitôt, disons, pour résoudre un problème, l'agriculteur est ravi que le pesticide marche, il a tout nettoyé, tout liquidé, mais en même temps, on a créé les conditions pour avoir encore plus besoin de cette drogue à l'avenir. C'est-à-dire que le prédateur du ravageur est aussi éliminé, donc le ravageur prolifère, ensuite le ravageur devient lui-même plus ou moins tolérant jusqu'à ce qu'il devienne résistant, donc on accroît les doses, et lorsqu'il devient totalement résistant, il faut changer de drogue. Et donc, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est un système véritablement de dépendance complète vis-à-vis de la chimie dans laquelle les agriculteurs se sont jetés. D'autant plus qu'eux-mêmes ont tendance à se spécialiser de plus en plus, puisqu'ils ont les moyens chimiques. Avant, il n'y avait que les moyens naturels, c'était l'utilisation de la diversité. Et là, c'est le deuxième thème, un autre thème de l'Alter Tour. La diversité permettait de contrôler en grande partie, les ravageurs. Et donc, on supprime la diversité et il faut recourir à des pesticides. Donc, ça permet de se spécialiser encore plus. Et là, il y a de nouveau une nouvelle spirale de dépendance qui se met en place.
Ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est justement, me semble-t-il, l'intrication de plusieurs, de nombreuses spirales entre elles. Parce que je me disais que de même que l'agriculteur devient dépendant du pesticide, que la plante, d'une certaine manière, devient dépendante du pesticide, nos sociétés ont l'air dépendantes de ce type d'agriculture aussi.
Absolument. On s'est jeté dans un système dans une espèce de fuite en avant permanente, puisque toutes ces spirales se lient les unes aux autres, se dynamisent les unes les autres. On peut prendre d'autres exemples, les machines par exemple, les machines agricoles. Les machines agricoles, elles sont en effet très utiles, mais elles vont tasser les sols. Comme on a mis des pesticides, les vers de terre disparaissent, donc les sols se compactent. Il faut utiliser des machines plus puissantes, donc plus lourdes, qui compactent encore plus les sols et qui font disparaître encore plus les vers de terre. Et puis finalement, on arrive à un stade où les vers de terre disparaissent complètement, on a des sols complètement compactés, et ces sols compactés n'acceptent plus l'eau, l'eau, les mécanismes qui permettent les galeries que forment les vers de terre qui permettaient à l'eau de pénétrer dans les sols, eh bien, ont disparu. La capacité de rétention des sols en eau est très très limitée. Et la conséquence, c'est qu'il va falloir irriguer. Donc c'est là aussi une espèce de fuite en avant où il faut chaque fois utiliser de nouveaux moyens techniques pour corriger les problèmes qui ont été créés par l'utilisation des moyens techniques antérieurs, sans que jamais, à aucun moment, personne se pose le problème de savoir pourquoi, par exemple, tel ravageur est apparu à tel moment. Et s'occupe de savoir comment mettre en place un système, un agro-écosystème, qui ferait que le ravageur serait contrôlé, non pas éliminé, serait contrôlé et, disons, et ses nuisances limitées. Mais ça, cette question-là échappe complètement. C'est la même chose en médecine. Hein. La médecine fonctionne sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on soigne les maladies ou les symptômes des maladies sans se préoccuper en amont des causes profondes qui ont créé la maladie.
C'est-à-dire que, effectivement, la question qui n'est jamais posée, c'est celle de l'écosystème, justement,
voilà.
D'un système qui serait clos sur lui-même. Lilian Ceballos, je vous vois opiner vigoureusement. Vous êtes pharmacologue, écologue, donc effectivement, là, on rentre dans votre terrain de prédilection et de connaissance. Vous serez également sur l'Altertour et vous allez, vous aussi, parler de dopage.
Voilà. Oui, parce qu'en fait... Donc si on s'intéresse un peu au côté sportif donc du dopage, je veux vous parler un peu de cet aspect-là. On a l'impression que le dopage est une chose relativement nouvelle dans le sport, parce que en fait en 98 l'affaire Festina semble avoir été l'occasion d'une prise de conscience par le public du fait que dans le sport il y avait du dopage. Et de suite après, d'ailleurs, une athlète, Griffiths Joyner, est morte à 38 ans. Mais en réalité, ce que je voudrais dire, c'est que le dopage est bien plus ancien dans le sport. Et très brièvement, je voudrais citer des événements historiques qui montrent bien que dès le départ, dans cette idée de dépassement et de compétition sportive, il y avait une forme de stimulation artificielle du potentiel des athlètes, des coureurs, et que cette tendance de dopage était présente dès le départ.
Le départ, vous le faites remonter alors, à quand
parce que... Vous allez voir, je vous cite quelques dates, non, mais par exemple, oui, peut-être qu'à Olympie, ils prenaient des plantes ou des substances stimulantes, je ne sais pas, mais pour parler du sport moderne, en 1896, par exemple, au cours de la course Bordeaux-Paris, un coureur gallois qui s'appelait Arthur Lindon est décédé en fait suite à la prise d'un mélange d'opiacés. D'accord. En 1936, pour continuer ces exemples historiques, en 1936, aux Jeux de Berlin, tous les athlètes allemands étaient drogués aux amphétamines et je précise aussi que par la suite, les soldats de l'armée allemande ont eux-mêmes été, dopés aux amphétamines. Et pour continuer avec un exemple un peu plus général, aux États-Unis, par exemple, où le football américain est un des sports les plus populaires, évidemment, et qui entraîne un engouement absolument colossal, et des sommes d'ailleurs, et des sommes aussi en jeu qui sont tout à fait colossales, eh bien, je vous donne une statistique simple. La moyenne de vie, l'espérance de vie d'un joueur de football américain aux États-Unis est de 55 ans, et je précise que la moitié de ces athlètes décèdent à 47 ans. Donc vous voyez que la situation n'est pas nouvelle.
La situation n'est pas nouvelle. Pourtant, depuis quelques années, on semble s'y intéresser, y prêter attention et porter un regard critique.
Tout à fait.
Sur le dopage.
Tout à fait. Parce que ce qu'il faut voir, ce qu'il y a derrière cette nécessité de s'occuper enfin du dopage, c'est tout simplement de sauvegarder l'idéal d'un sport pur. Hein, puisque bien entendu, si les cas de dopage se multiplient, eh bien, ça va créer un doute et une suspicion sur la nature même du sport. Et le sport ayant pris l'importance sociologique qu'il a dans nos sociétés, les sociétés se sentent obligées de réagir et donc de poser des limites au dopage. C'est la raison
pour... c'est quand même un peu plus curieux que ça, parce que de fait... On est les uns et les autres, vous êtes en train de dire que nous sommes dans des sociétés qui considèrent le dopage comme inhérent à un mode de vie, d'une certaine manière, puisqu'on l'utilise, on l'utilise dans le sport, on l'utilise également dans l'agriculture, et puis on l'utilise aussi, me semble-t-il, dans toutes les les comportements addictifs qui sont induits par la publicité, pour la consommation, etc. Enfin, il y a véritablement, effectivement, une attitude positive, on pourrait dire, vis-à-vis du dopage. Et dans le même temps, dans les années 30, si on regarde des vieilles archives cinématographiques, par exemple, qui montrent le Tour de France ou les circuits du Veldiv, etc., on parle très ouvertement du dopage. On en parle comme de quelque chose de parfaitement naturel.
Tout à fait. Arthur Londres avait d'ailleurs fait déjà une enquête sur le dopage sur le Tour de France. Donc,
Oui, mais sans avoir l'air de critiquer. C'est ça
c'est exact.
Mystérieux.
Je pense que vous avez raison. La relation entre la compétition, l'esprit de compétition et de dépassement, et la stimulation artificielle par des substances dopantes, des performances et des capacités des individus, est quelque chose qui est profondément présent dans notre société. Et je voudrais juste préciser, pas uniquement dans le domaine du monde sportif. Je me souviens d'une émission de vos collègues, je pense que c'est sur France Inter, je dis peut-être une bêtise, Interception. Il y avait un reportage sur des médecins qui désintoxiquaient des sportifs. Ces médecins précisaient qu'on estime qu'il y a 600 000 personnes qui se dopent pour leur activité professionnelle. J'entends par là pour l'entreprise, dans le cadre de cette idéologie libéraliste, d'une compétition absolument généralisée des entreprises. Donc, ce que je veux dire sur le fond, c'est que on a les mêmes exigences envers un travailleur quelconque qu'on peut en avoir envers un sportif.
Jean-Pierre Berland, vous voulez intervenir, me semble-t-il.
Oui, mais c'est lié au fait que toute notre vie sociale et économique est organisée autour de la notion de concurrence, de compétition, de succès. Et donc, tous les moyens sont bons pour arriver à ce résultat-là. En ce sens-là, le sport est le révélateur d'un mode de fonctionnement social général. Et l'engouement pour le sport est aussi révélateur du fait que notre société fonctionne sur cette base-là. Et donc tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins.
Pour faire une analogie avec l'agriculture, en fait, c'est que tout ce qu'on appelle les intrants, tout ce qu'on met dans les sols et tout ce qu'on met sur les plantes contre des prédateurs, c'est appelé phytosanitaire. Donc il s'agit de médicaments pour les plantes. Et c'est relativement récemment qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ces médicaments pour les plantes avaient des effets secondaires pour la nature et pour l'homme. Et je crois que Annie Poursinoff citait notamment le fait que le déclenchement, ça a été la pollution des eaux.
Oui, je pense que si on n'avait pas été en face d'une vraie, d'un vrai problème de pollution de nos eaux qu'il faut dépolluer, et qu'il faut dépolluer à prix très cher, et donc les consommateurs retrouvent ce prix sur leur facture d'eau, je pense qu'on continuerait à polluer sans vergogne notre eau. Bon, on a une directive européenne qui nous demande un bon état écologique des eaux pour 2012. Tout le monde sait qu'on ne va pas y arriver puisqu'on continue à mettre beaucoup d'intrants, de pesticides dans l'eau. Donc,
on paye déjà des amendes assez conséquentes à l'Europe pour non-transposition des directives
en plus,
de potabilité de l'eau.
On sait que les efforts qu'on essaye de faire sur les zones de captage, en particulier en Île-de-France, en mettant de l'agriculture biologique sur des territoires qui sont qui devraient être préservés parce qu'il y a des captages d'eau potable à ces endroits-là, on a énormément de difficultés parce que les aides à la reconversion à l'agriculture biologique ne sont pas suffisantes. On a des chambres d'agriculture qui préfèrent, quand il y a une cession de terrain, les donner déjà un exploitant qui va encore agrandir ses terrains plutôt que de les donner à un exploitant en bio. Donc on a bien des règles, mais elles sont loin d'être respectées. Donc moi, je suis inquiète de l'état de nos nappes phréatiques parce que, en plus, les produits sont dans le sol, donc ils s'infiltrent doucement et ils continuent à arriver dans nos nappes. Et notre santé est en cause quand même. On pense qu'on a quand même des épidémies importantes de cancer qui sont... Moi, je ne suis pas une scientifique, mais c'est peut-être dû à ces produits qu'on prend tous les matins à notre robinet. Quoi.
Vous dites que c'est la qualité de l'eau qui a servi de signal d'alarme, en quelque sorte, et qui a peut-être accéléré ou en tout cas démarré une prise de conscience. Mais dans le même temps, on n'est pas encore sorti de cet état d'esprit général dans lequel... Le sport, c'est formidable. L'agriculture conventionnelle, c'est très bien parce que très productif, c'est ça qui va nourrir les milliards d'affamés dans le monde, etc. Enfin, on a le sentiment que, d'une certaine manière, ce que vous, aujourd'hui, autour de la table, choisissez d'appeler dopage, est appelé ailleurs progrès, tout de même.
C'est remis en cause, ça, que ce soit un progrès. Les consommateurs, y compris, je crois, dans cette maison, demandent à avoir des produits biologiques de provenance locale pour éviter des transports, etc. Donc, on voit bien qu'il y a...
Faites allusion au circuit court, les AMAP.
Les AMAP. Ça montre quand même une prise de conscience de nos citoyens, des concitoyens français, qui, entre autres, et européens, qui ne veulent plus de ce système-là. Le toujours plus, ça coûte cher. Hein, quand vous dites on se dope pour aller au boulot, il y a aussi un nombre de dépressions très important. Moi, ma prise de conscience écologique, je l'ai eue à l'hôpital, où je posais des perfusions dans deux chambres différentes. J'avais dans une chambre une dame qui s'était...
Vous êtes infirmière, en fait.
Je suis infirmière, oui. Qui avait tenté de se suicider parce qu'elle était au chômage. Et dans la chambre d'à côté, je posais la même perfusion à un chef d'entreprise qui avait tenté de se suicider parce qu'il n'en pouvait plus. Je vous avoue que je suis rentrée le soir chez moi en me disant « il y a un truc qui ne va pas ».
En fait, je crois qu'un des éléments vraiment très importants de cette Alter Tour de France, Dominique Béroul, c'est justement que vous ayez eu l'idée de faire le lien et de rendre apparent c'est ce facteur commun qui est celui du dopage.
Alors, je ne sais pas, c'est pas forcément une idée très originale. Je crois qu'on peut tous avoir des idées de ce genre-là. L'idée la plus folle, c'est peut-être d'avoir pensé que ça pouvait se réaliser. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mobiliser des centaines de personnes sur ce sujet. Et ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure à mon déficit de mémoire concernant les associations, je pense qu'il est beaucoup plus important de dire qu'il y a vraiment une centaine de personnes dans une vingtaine de départements en France qui ont participé à la réalisation de ce projet et qui l'ont rendu réaliste, puisqu'il y a beaucoup de problèmes, de questions qui sont posées au fur et à mesure qu'on a avancé, puisque ça fait quand même 9 mois qu'on est en route pour le faire se réaliser, et donc que les solutions ont été apportées collectivement grâce à ces personnes.
Bon, c'est bien. Donc, vous n'êtes plus frustré par rapport à la liste des organisations. Mais là, j'étais plus en train de vous attirer sur les thèmes qui ont été choisis et qui seront abordés.
Alors, en fait, là encore,
thèmes dans lesquels, justement, on peut retrouver cette notion de dopage, peut-être pas dans tous, on va regarder.
Alors, c'est effectivement un projet qui s'est construit en fonction des propositions qui étaient faites par les différents collectifs locaux. Donc, on n'est pas parti d'une liste de thèmes. Il se trouve que hier soir, je me suis amusé à organiser la liste des interventions par thème, mais donc ça a été fait a posteriori. Il se trouve qu'il y a bon nombre de thèmes qui sont tous très intéressants. Voulez-je vous les cite ou est-ce
Vous pourriez. Moi, ce que je vous propose, c'est d'en citer quelques-uns. Et puis, s'il y en a qui réagissent autour de la table, ils sont les
d'accord,
bienvenus.
D'accord. Bon, alors, par ordre alphabétique.
Jean-Pierre Berland, je vous vois prendre des notes par ordre alphabétique.
Voilà, pour faire les choses de manière organisée. Non, il y aura effectivement le thème de l'agroécologie et de la manière dont ça peut être enseigné, parce qu'on va être accueilli par peut-être deux lycées agricoles qui nous présenteront leur enseignement. Et évidemment, le thème des AMAP, des circuits courts de diffusion des produits bio. Il y aura le thème de l'apiculture, le thème du dopage qui sera abordé à l'occasion.
Alors, l'apiculture, pourquoi ?
Eh bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a une forte disparition des colonies d'abeilles qui s'est manifestée il y a à peu près 1 an et demi l'hiver aux États-Unis, et puis que maintenant c'est quelque chose qui arrive en France, et qu'à l'heure actuelle on ignore complètement les causes de ces disparitions, et que c'est tout à fait dramatique. C'est de l'ordre de 40% de disparition des colonies d'abeilles, et il est vraisemblable que le dopage de l'agriculture soit en cause d'une manière ou d'une autre.
Lilian Ceballos, voilà. Vous travaillez sur ces questions-là.
Oui, tout à fait. Alors, les mortalités en question aux États-Unis, en Italie, maintenant ça arrive en Europe. Je veux juste préciser brièvement que d'après les experts américains qui se sont penchés sur le sujet, c'est des mortalités qui n'ont rien à voir avec les mortalités connues jusqu'ici. Hein, c'est pas des mortalités liées au varroa.
Vous parlez du nombre ou de la...
Non, des symptômes, du mécanisme pathologique qui est en cause. Disons que par exemple, il y a des faits très curieux pour être précis. Les ruches en question qui sont attaquées, enfin, qui sont malades, qui sont atteintes, on retrouve dans ces ruches Oui, la reine, en fait, avec juste une centaine d'ouvrières autour, alors qu'il y a abondance de miel et de réserves dans ces ruches. Ce qui est très curieux, c'est que ces ruches ne sont pas réoccupées par d'autres essaims quand elles sont abandonnées. Il y a un très long délai de réoccupation. Et même les insectes du sol qui peuvent piller le miel, puisque quand même les ressources aussi riches que le miel intéressent beaucoup de monde, eh bien même ces insectes-là n'occupent pas la ruche. Enfin, un dernier fait qui est tout à fait étonnant, si on pose une ruche atteinte au-dessus d'une ruche saine, la ruche en dessous est elle-même atteinte. Donc il y a vraiment de grandes questions qui se posent à ce sujet. Et ce que je voudrais signaler en parallèle, c'est très probablement, d'après les experts américains, des causes plurifactorielles qui interviennent, c'est-à-dire peut-être à la fois, bien sûr, des produits chimiques, des insecticides, des substances répulsives, des problèmes aussi peut-être de résistance génétique des abeilles, d'origine génétique des abeilles, etc. Mais ce que je veux souligner, c'est que le 15 mai 2008, donc il y a très peu de temps, le gouvernement allemand a suspendu l'enrobage à base de clothianidine de toutes les semences. Et les apiculteurs, en France en particulier, ont fait un combat, je dirais, dantesque contre ces insecticides d'enrobage qui nous sont présentés comme une exigence, une absolue nécessité de l'agriculture par Bayer, par les gens qui font cet enrobage-là. Et je veux donc juste souligner que le gouvernement allemand a pris des mesures de suspension des enrobages à base de clothianidine et de tous les produits de cette famille de néonicotiniques. Donc je présume que s'ils suspendent ces insecticides, ils doivent bien avoir des données scientifiques qui doivent motiver cette décision.
Mais ils ne les ont pas rendues publiques.
À ma connaissance, non.
En tout cas, cet épisode arrive effectivement après un certain nombre d'autres qui, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas ces épisodes, ont en effet inclus des problèmes liés à des insecticides.
Bien sûr, bien sûr. Et puis je voudrais juste aussi préciser une chose. Quelle que soit l'importance des mortalités d'abeilles, il faut que les agriculteurs se sentent concernés parce que ça a des répercussions évidemment sur la pollinisation et le service gratuit que font les abeilles quand elles vont transporter le pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles. Et pour être clair, aux États-Unis, en Californie en particulier, qui est le plus gros producteur mondial d'amandes, les rendements d'amandiers, des amandes, a chuté de 30 à plus de 70% selon les comtés, selon les endroits, tout simplement parce qu'il y a eu un déficit de pollinisation. Et suite à ça, les experts en question du département d'agriculture américain ont essayé d'évaluer économiquement l'importance de la pollinisation par les abeilles. Et cette évaluation aboutit au chiffre assez vertigineux de 15 milliards de dollars par an, je précise, pour le seul transport du pollen. C'est-à-dire, il n'est pas pris dans ce chiffre en compte la production de miel, la propolis, tous les produits de la ruche. On quantifie là uniquement le transport du pollen par les abeilles. Et si les abeilles étaient absentes, évidemment, eh bien, il faudrait peut-être aller porter le pollen à la main. Je vois que Jean-Pierre veut réagir.
Les abeilles ne le savaient pas, mais elles étaient milliardaires.
Non, mais c'est quand même parfait. Ça va permettre de créer un marché de 15 milliards de dollars. Ça va faire accroître le PIB. Ça va créer des
emplois. Encore une autre forme de dopage. On va y revenir. Annie Poursinoff, vous vouliez ajouter quelque chose.
Juste dire que les abeilles en ville se portent bien, puisque la région Île-de-France, entre autres, a mis dans nos locaux, enfin dans nos petits jardins du Conseil régional, rue de Babylone, boulevard des Invalides, des ruchers qui se portent très bien. On a le plaisir de voir nos abeilles. Alors, il y a quelques élus qui avaient peur des abeilles au début. Alors, il y a eu toute une formation pour expliquer que non, elles n'allaient pas nous attaquer. Et elles sont en parfaite santé. Elles nous ont donné déjà du miel que nous avons récolté là au printemps.
Lilian Ceballos.
Une très brève précision, puisque Anne en parle. Les amis de l'UNAF, donc le syndicat apicole qui a lancé cette initiative d'abeilles sentinelles de l'environnement, il y a des résultats qui sont très étonnants, c'est qu'effectivement les miellées en Île-de-France, ici à Paris, sont bien plus importantes que les miellées, c'est-à-dire la production, la quantité de miel produite dans les zones de grande culture. Je voulais juste souligner que c'est révélateur quand même de où on en est dans les zones de grande culture.
Mais vous voyez, Dominique Béroul, c'était tout simple, il suffisait de faire un tour de Paris et tout allait bien, en fait.
Ça sera pour une prochaine fois. Je voulais indiquer que parmi tous les thèmes, il y a un grand nombre de thèmes, on ne va pas tous les citer, il y en a un qui est absolument fondamental à l'heure actuelle, c'est celui de la souveraineté alimentaire, puisque le tour va coïncider avec quelque chose qui maintenant est révélé au niveau international, c'est un phénomène de famine qui est structurel, qui n'est pas du tout conjoncturel comme on voudrait le faire croire. Et il se trouve que les amis de la Confédération paysanne organisent, pendant l'Altertour, une école d'été sur ce sujet. Donc ça sera l'occasion de notre journée de repos, qui sera pas tout à fait, qui sera assez studieuse, qui ne sera pas vraiment du repos, mais pendant 2-3 jours, disons, ce thème sera abordé par différents intervenants, compte tenu notamment de son importance à l'heure actuelle.
Oui, Annie Poursinov.
Donc, moi, je suis assez agacée d'entendre sur toutes les radios, y compris sur France Inter, que l'agriculture biologique ne nourrirait pas le monde. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que l'agriculture intensive nourrit le monde? C'est faux. Actuellement, énormément de gens meurent de faim. Donc, c'est assez agaçant de mettre toujours en parallèle que l'agriculture biologique n'arrivera pas à faire ce que ferait, soi-disant, l'agriculture intensive, alors qu'elle ne le fait pas. Donc, j'en profite pour redire ça, parce que c'est particulièrement contrariant. On ne sait pas si l'agriculture biologique sera en mesure de nourrir le monde, mais on peut le présager, alors que l'agriculture intensive ne nourrit pas le monde, il faut le dire.
Jean-Pierre Berlin.
C'est normal qu'elle n'arrive pas à nourrir le monde, l'agriculture intensive, c'est pas son rôle, hein. Son rôle, c'est de nourrir le capital investi. Donc c'est tout à fait différent d'une agriculture, de l'agriculture paysanne. En fait, le paysan d'autrefois produisait du blé. Maintenant, il faudrait parler d'un système agro-industriel qui transforme les pesticides en pain jaquet. C'est tout à fait différent, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'on est piégé par les mots. On utilise toujours le même terme agriculture pour désigner quelque chose qui a été littéralement vidé de tout contenu. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir entre l'agriculture que l'on a encore en tête, où le paysan produisait du blé, et ce système dans lequel nous sommes, le système agro-industriel, encore une fois, transformer des pesticides en pain jaquet. C'est deux mondes complètement différents qui n'ont plus aucun rapport l'un avec l'autre. On est passé dans autre chose. Malheureusement, le vocabulaire que nous utilisons, et ça c'est vrai pour à bien des points de vue...
Le vocabulaire et les images.
Et les images. Donc je crois qu'on est face à une situation, si vous voulez, on ne peut pas arriver à penser la réalité. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai repris sur le terme organisme génétiquement modifié, parce que tant qu'on ne parlera pas de plantes pesticides brevetées, on sera à côté de la plaque. De la même façon qu'on continue à utiliser des termes dans notre vie courante qui sont des termes d'un monde ancien et qui ne correspondent plus à la vitesse à laquelle notre société, droguée par les changements techniques, pas le progrès technique, a évolué. Elle nous prive, le vocabulaire évolue et change beaucoup plus lentement que les techniques.
Oui, tout le monde veut réagir. Alors, Lilian Sebalos.
Je voudrais préciser sur l'aspect de la productivité de l'agriculture biologique. Il y a une étude qui est la seule dans le monde qui répond vraiment à cette question. C'est à l'Institut Rodale aux États-Unis. Ça associe le ministère de l'Agriculture, l'Université Cornell, le professeur Pimentel, des grands écologistes américains. Je vous en donne le résultat synthétique. Cette étude compare deux rotations bio, un système bio-élevage, polyculture élevage et un système entièrement végétal, avec la rotation classique américaine, maïs, 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 soja, maïs. D'accord ? Donc là, on a vraiment une comparaison, agriculture conventionnelle, avec tous les intrants chimiques, qu'est-ce qu'elle arrive à produire, et deux systèmes bio. L'évaluation est surtout les aspects, la rétention de l'eau, le recyclage de la matière organique, etc. Et sur tous ces aspects, les rotations bio font mieux. Mais je veux préciser que sur l'aspect quantitatif, sur l'aspect rendement, cette étude se poursuit depuis 25 ans. Hein, et dans l'ordre, en fait, les deux systèmes bio sont plus productifs que le système conventionnel. Sur les 25 ans, c'est pas significatif, donc en gros, ils font aussi bien et un petit peu mieux. Mais si on analyse par contre que sur les 10 années de sécheresse qui ont eu lieu pendant ces 25 ans, et on sait qu'avec les réchauffements climatiques, on va avoir une augmentation des périodes de sécheresse, à ce moment-là, c'est très clair, le système conventionnel américain produit 2/3 de ce que produit les rotations les systèmes biologiques. Donc je n'arrive même pas à comprendre que la FAO fasse semblant de s'interroger si est-ce qu'il est possible ou pas de produire une base alimentaire avec de l'agriculture bio, Hein, alors qu'il y a des données scientifiques tout à fait sérieuses et qui répondent exactement, dont le protocole est conçu pour justement répondre à cette question, et ces données-là, personne ne les cite.
La FAO s'oriente vers des discours nettement plus en faveur de l'agriculture biologique ces derniers
mais
temps.
Mais pourquoi se servit-il pas de ces données scientifiques qui permettent vraiment d'enfoncer le clou?
On va leur téléphoner, on va leur demander. Annie Pourcinoff.
Peut-être pour répondre à sa question, pourquoi on n'utilise pas ça? C'est parce que c'est beaucoup plus compliqué. L'exploitant agricole, hein, puisqu'on est rattrapé par les mots quand même, hein, il exploite des surfaces agricoles. Hein, on n'exploite même plus de la terre. Hein. En Beauce, on est sur des surfaces. On n'est pas la terre, elle est là parce que ça permet de mettre sur des grandes distances une production où chaque matin sur l'ordinateur, on vous dit combien de pesticides il faut mettre à tel endroit. Maintenant avec des satellites qui vont vous dire de façon un peu plus précise pour pas trop en gaspiller, parce que ça commence à coûter cher. Tous les engrais, les pesticides qui soi-disant vont bien. Alors que l'agriculture biologique, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc ça veut dire effectivement que l'enseignement agricole s'adapte, qu'on transforme les fermes des lycées d'enseignement en bio. Donc ça veut dire que les enseignants eux-mêmes sont formés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus compliqué que l'agriculture intensive, qui est quand même une agriculture très bête, il faut reconnaître. On n'a pas besoin d'avoir une grosse cervelle pour faire de l'agriculture intensive. Il suffit de... Non, mais c'est vrai. Ça vous fait rire. Alors que dès qu'on est dans le bio, ça devient plus compliqué. Donc on n'est pas, c'est pas étonnant que ce soit des militants qui en ont envie, etc. Et en plus, au niveau des aides, on reçoit beaucoup plus d'aides de la PAC actuelle, même si elle est remise en cause, si on fait de l'intensif que si on fait du bio. Donc c'est un vrai problème, même financier. Les bio, il faut quand même aussi qu'ils se nourrissent.
Dominique Béraud.
Oui, là, on vient de parler de problèmes financiers. Il me semble qu'on ne peut pas terminer cette émission sans aborder le dopage financier, puisqu'il est tout à fait en synergie avec le dopage agricole et aussi sportif.
Il
est évident que si un financier mise sur une équipe, par exemple une équipe cycliste, qu'en retour, cette équipe obtient de bons résultats, eh bien on va augmenter le dopage financier et ça va être une boucle infernale qui ne va s'arrêter que par des problèmes de santé observés chez les cyclistes ou bien une réglementation qui va devenir plus difficile. Donc il faut absolument mettre en valeur le fait qu'il y a dopage financier et dopage agricole ensemble pour que ça fonctionne. C'est les deux qui doivent être considérés.
C'est-à-dire c'est la question financière.
Oui, tout à fait. Oui.
Jean-Pierre Berland.
Ça coûte très cher de faire des OGM par exemple.
C'est la question des représentations. On est dans un monde maintenant où délibérément on met en place une concurrence exacerbée entre les gens, entre les continents, entre les peuples, entre les personnes. Et concurrence exacerbée dit pour réussir il faut se doper. Et je crois que le but de l'Alter Tour, c'est justement de rompre avec ça. C'est à une société de concurrence et de dopage dire mais il y a une société de partage qui est possible. Et c'est vraiment cette idée-là, je crois, qui est au fond de l'Alter Tour et qu'il s'agit de populariser. Sortons de ce monde de folie qui nous entraîne à l'abîme.
C'est vrai qu'en vous écoutant les uns et les autres, je me disais que finalement, peut-être aussi un des symptômes communs, c'est celui de ce système qui va toujours vers une extrême simplification. Annie Pourcinoff, vous parliez de bêtises. Bon, c'est vrai que des champs de monoculture sont... Il y a une seule plante qui a gagné sur toutes les autres. Il y a une seule culture qui a gagné sur toutes les autres. De même que dans le sport, il y en a un qui gagne sur tous les autres. De même que dans l'entreprise, il faut être l'entreprise qui va dépasser toutes les autres. Il faut être le cadre qui va dépasser tous les autres, etc. Et finalement, cette absolue... simplification qui s'accompagne d'une absolue désertification, c'est un refus de penser le complexe, oui. Me semble-t-il. Oui, Annie Pourcinoff.
Je pense, en vous entendant, aux plantes sauvages qui sont appelées mauvaises herbes. C'est vrai que éradiquer les mauvaises herbes avec des produits pour que tout soit clean, c'est certainement, ça doit répondre à un besoin de certaines personnes de simplification, alors que de se dire qu'une herbe sauvage, elle peut avoir son utilité dans l'écosystème, c'est un changement tellement important d'esprit. On est en train train d'essayer de mettre moins de pesticides dans les villages, et on commence par les cimetières, parce qu'apparemment, on met énormément de pesticides dans les cimetières. Reconnaître qu'autour d'une tombe, il pourrait y avoir des plantes sauvages, apparemment, c'est un état d'esprit extrêmement compliqué à faire changer. Donc, dans les gestes du quotidien, on s'aperçoit qu'on est quand même plus sur de la simplification, et puis ça permet aussi de rendre l'esprit disponible à acheter un 4x4 pour avoir un 4x4 plus gros que celui de son voisin, etc. Je pense un peu que notre chance, alors bon, nous, on n'est pas très content que les écologistes appellent ça une chance, mais le prix élevé du pétrole, ça va quand même obliger dans le quotidien de chacun de se reposer des questions sur les bons choix et sur où est le plaisir de la vie, quoi. Si c'est vrai que là, on va se retrouver ensemble avec sur cet aller-retour, à passer de bons moments. Sûrement, on va rigoler avec nos familles, etc. Parce qu'il va y avoir sûrement des moments un petit peu difficiles. Et puis, avec des échanges.
Avec certaines des côtes, échanges. Il y a des passages de col à 600 mètres.
On ne m'avait pas dit ça.
Non, parce que sinon, il n'y aurait pas d'inscrit.
C'est quand même intéressant, je trouve que... ce soit dans le cimetière qu'on trouve les pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, biocides. On les retrouve là, dans le cimetière. Je veux dire, s'il y a une image, tous ces produits en cid dans les cimetières, là, je crois que ça indique bien où on va, quoi, dans notre société.
Si tu peux me permettre, oui, je voudrais parler justement par rapport à ces problèmes de compétition exacerbée. Il y a une grande biologiste américaine qui s'appelle Lynn Margulis, qui est une biologiste évolutive, et qui, elle, dit, pour être simple, qu'en fait, dans la vision darwinienne, on a exacerbé l'importance de la compétition par rapport au phénomène de compétition. Et ce que je veux dire, pour être très simple, c'est beaucoup plus facile.
On a exacerbé le phénomène de la compétition par rapport à la compétition ?
Oui, dans notre analyse, dans notre interprétation. Je m'explique.
Oui.
Il est beaucoup plus simple,
s'il vous plaît.
Il est beaucoup plus simple de s'apercevoir qu'un lion mange une gazelle que de s'apercevoir que les bactéries qui fixent l'azote et qui vivent dans les racines des légumineuses permettent aux légumineuses d'occuper des milieux qu'elles ne pourraient pas occuper sans la présence de cette symbiose. Donc, en clair, ce que dit Margulis, elle réinterprète l'ensemble de la vision darwiniste en disant il y a eu une valorisation, une survalorisation du moteur compétition dans les processus évolutifs par rapport à la coopération.
À la coopération.
Rapport à la coopération. D'accord. Et juste ce que je veux souligner, dans son excellent livre « L'univers bactériel » qui est disponible en 2018, enfin un livre de poche, en fait, elle souligne que dès 1900, et vous allez voir le lien, les entrepreneurs se sont... servi de cette survalorisation de la compétition, je cite à ses propres mots, pour justifier le travail, par exemple, d'enfants dans les mines. Donc vous voyez bien que je crois que tout ce dont on parle depuis une heure, il y a une idéologie, et je pense que la racine de cette idéologie, elle est peut-être au niveau de cette exacerbation de la compétition qui découle de Darwin.
Jean-Pierre Berland ?
Je voudrais renforcer ça, disons que on voit le monde naturel comme en fait une projection en fait de notre monde social. Et bon, c'est un constat que j'ai pu faire à plusieurs reprises, mais une fois, je me rappelle d'être tombé sur des articles, un article qui analysait des bouquins de botanique, un article de la revue Nature, qui analysait des livres de botanique publiés dans ce qu'on appelait les pays de l'Est à l'époque, les pays communistes ou socialistes, et puis les pays capitalistes. Et donc, dans les pays capitalistes, ce qu'indiquait cet article, c'est que la représentation de la plante était concurrentielle, compétitive, elle cherchait à conquérir de nouveaux territoires, à éliminer ses concurrentes, etc., etc. Dans les pays socialistes, la représentation de la plante, c'était la plante qui entretenait de multiples relations de coopération avec d'autres plantes qui ne pouvaient pas vivre seules, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que l'un et l'autre sont vrais. Et que tantôt la plante est compétitive, tantôt la plante est solidaire, coopérative, partageuse. Et que ce sont en réalité notre rapport au monde, notre rapport social au monde qui va déterminer notre vision des choses du monde naturel. Et c'est pas par hasard que justement la représentation darwinienne est une représentation de concurrence parce que ça représente le moment où la bourgeoisie concurrentielle est en train de monter, de prendre le pouvoir au 19e siècle. Et je pense que à l'heure actuelle, notre tâche, justement, si je reviens à cette notion de partage, c'est de mettre en avant à travers l'alter-tour qu'un autre fonctionnement social est possible, que cette espèce de concurrence absolument exacerbée, qui est mortifère et qui nous détruit complètement et qui est en train de détruire la planète.
Alors, on va peut-être justement terminer sur de nouveau sur l'alter-tour en tant que tel. Dominique Béroul, je vous entendais dire tout à l'heure, avant cette émission, que vous vous intéressiez au modèle neurobiologique et vous aviez l'air de penser qu'il y avait un lien Alors, comme on a beaucoup parlé de modèles de pensée, d'idéologie, de... Alors, on a failli partir dans les bactéries, mais si je vous ramène maintenant du côté des neurones, comment est-ce que vous... Enfin, pas comment, puisque vous l'avez déjà un peu décrit, mais peut-être qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous espérez de cet AlterTour qui permettrait de retourner du côté du foisonnement, du côté de la complexité, du côté de quelque chose de plus vivant?
En disant qu'en rapport avec le fonctionnement du système nerveux, si on arrivait à faire comprendre aux participants lors des exposés qui auront trait au dopage que le système nerveux est un système extrêmement fragile et que toute intervention d'une substance qui essaie de simuler une substance existante dans le système pour solliciter l'organisme, pour potentialiser ses effets, pour des questions de croissance, est absolument dangereuse. Il me semble que ce qui différencie l'espèce humaine par rapport aux autres animaux, c'est notre capacité à planifier à long terme et à être capable de laisser passer un certain nombre de difficultés qu'on peut avoir temporaires parce qu'on sait qu'on aura une récompense, que notre système de récompense va nous dire « ça vaut la peine d'y aller, ça vaut la peine d'organiser ce projet AlterTour, même si on a des difficultés temporaires, parce qu'on sera récompensé d'une certaine manière par le résultat ». Ce que fait un dopant, c'est qu'il va déséquilibrer le système de telle manière que la personne va fonctionner en mode court terme et la personne va rechercher un plaisir immédiat. Ça va devenir quelqu'un d'extrêmement impulsif. S'il occupe un poste politique important, ça peut avoir des conséquences extrêmement néfastes pour toute la population. Et il faut ça que tout le monde en ait conscience. Ça oriente nos choix politiques. Et lors des élections, ça me semble tout à fait indispensable.
Pour aller se renseigner sur l'AlterTour, il y a un site?
Oui, il y a un site qui s'intitule www.altertour.net sur lequel on trouve des bulletins d'inscription. Et donc, les auditeurs et auditrices sont tout à fait encouragés.
Parce qu'il faut s'inscrire.
Oui, c'est absolument indispensable. Il s'agit d'une action de coopération. On ne peut pas imaginer que des choses se fassent de manière locale. Il faut absolument pouvoir coordonner ces inscriptions pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de personnes sur les différents relais. Et ça demande un minimum de coopération, de préparation, de planification.
Vous nous rappelez les dates de l'AlterTour?
Oui, alors l'accueil de l'AlterTour se fera le 3 juillet à Sandras, à côté d'Alès. On peut atteindre Alès en train très facilement. Et on aura des navettes qui permettront aux personnes, aux altercyclistes, d'arriver sur le lieu du départ très facilement. Et jusqu'au 28 juillet.